RFI, il est 23h30 à Paris, Bangui et Libreville, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Avec vous, Zéphirin Quadio, bonsoir.
Bonsoir Alban Le Prince, bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette demi-heure d'actualité africaine, ce nouveau coup de pression du Tchad sur la France. Après l'annonce récente de la rupture des accords de coopération militaire avec Paris, N'Djamena exige désormais un départ des forces françaises avant le 31 janvier. Les discussions sont toujours en cours, répond Paris. En République démocratique du Congo, limogeage de plusieurs hauts responsables militaires, dont le chef d'état-major et le chef du renseignement militaire. Cette décision du président Félix Tshisekedi intervient alors que le mouvement rebelle M23 poursuit sa percée dans le Nord Kivu. Elle a eu également la promulgation du texte de la nouvelle constitution au Gabon. Le pays entre ainsi dans la 5e République. Cérémonie officielle ce matin, place de la Libération à Libreville. En présence du président de la transition, le général Oligui Nguema. Nous reviendrons également sur la libération des 4 fonctionnaires français accusés d'espionnage et détenus depuis un an au Burkina Faso. Information confirmée par plusieurs sources dont la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure. Et on commence par ce nouveau coup de théâtre dans le désengagement des forces françaises au Tchad après la rupture des accords de défense de coopération militaire annoncés par N'Djamena il y a environ 2 semaines. Aujourd'hui, les autorités tchadiennes exigent un départ des forces françaises avant le 31 janvier. Les négociations sont toujours en cours, répond Paris à N'Djamena. Bonsoir Franck Alexandre.
Bonsoir Zéphirin.
Où en est-on précisément de ces négociations, Franck ?
En tout cas, effectivement, des sources proches du gouvernement français indiquent que Paris a bien reçu ce soir une injonction pour un départ de tous les soldats français avant le 31 janvier, information qu'RFI a pu confirmer côté tchadien. Cette semaine, pour désengager plus de 1000 soldats et beaucoup de matériel, cela relève de l'impossible, indiquent des militaires français de haut rang, pour qui cette injonction n'est qu'un coup de pression de la frange dure du premier cercle du pouvoir tchadien. La négociation est toujours en cours, assurent les militaires français. Les discussions sont techniques, mais se passent bien, précise-t-il. Son de cloche, identique à N'Djamena, où l'on insiste sur la qualité du partenariat. Une source proche du gouvernement tchadien souligne qu'un premier calendrier de retrait s'étalant jusqu'en mars a été refusé car jugé trop long. L'idéal pour N'Djamena serait que le départ soit effectif avant la fin février et le début du ramadan. Propositions et contre-propositions se multiplient. Dans un esprit constructif, dit-on, on veut montrer que le désengagement est bien en cours, disent de hauts gradés français. Et de fait, après le départ des avions de chasse, les emprises françaises de Faya, Larjo et d'Abéché seront évacuées dans les prochains jours. Mais en bon ordre et en sécurité, et cela, disent les militaires français, ne se fait pas en un claquement de doigts.
Merci Franck Alexandre pour cet éclairage. Et puis en République démocratique du Congo, alors que les rebelles du M23 poursuivent leur percée dans le Nord Kivu, le président Félix Tshisekedi écarte plusieurs hauts responsables de l'armée, parmi eux le chef d'état-major et le chef du renseignement militaire. À Kinshasa, les précisions de Patient Ligodi.
Le général d'armée Christian Tshiwewe Songesha cède sa place à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo après 2 ans de mandat. Ancien commandant de la garde républicaine, il avait été promu chef d'état-major général en octobre 2022 avec pour mission de contrer l'avancée du M23, mouvement rebelle soutenu par le Rwanda. Cependant, la situation sécuritaire s'est détériorée. À ces jours, le M23 contrôle des vastes territoires dans le Nord Kivu, incluant Masisi, Rutshuru, Walikale, Nyiragongo et Lubero, des zones dont l'étendue est aujourd'hui 2 fois supérieure à celle occupée en 2012. Le général d'armée Tshiwewe est nommé conseiller militaire auprès du président Félix Tshisekedi. Son successeur à la tête de l'état-major général de FRDC est le lieutenant-général Banza Mwilambwe-Juil, un officier artilleur de formation. Avant sa promotion, ce dernier occupait le poste de chef adjoint de la maison militaire du chef de l'État, chargé des opérations et des renseignements. Un des hommes de confiance du président, il avait auparavant exercé les fonctions de commandant adjoint de la garde républicaine. Un autre changement de premier plan concerne l'état-major des renseignements militaires, le général-major Christian Deyuel, qui en assurait la direction d'opération est désormais affecté au commandement des forces terrestres. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
Et toujours en République démocratique du Congo, 8 chaînes du bouquet Canal+, dans le collimateur du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Elles écopent d'une suspension de 45 jours renouvelable. Le régulateur des médias leur reproche la diffusion de programmes jugés immoraux et qui inciteraient la jeunesse à une sexualité irresponsable. Fin de citation. Les responsables du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui se sont à maintes reprises prononcés contre l'apologie de l'homosexualité expliquent que la sanction infligée à ces chaînes vise, je cite, à préserver l'ordre public et les bonnes mœurs en République démocratique du Congo. Le Gabon, lui, est entré officiellement ce matin dans la 5e République. Le texte de la nouvelle constitution adopté par référendum en novembre dernier a été promulgué ce matin par le président de la transition au cours d'une cérémonie organisée place de la Libération à Libreville devant le monument inauguré le 30 août dernier en l'honneur des militaires qui avaient renversé l'ancien président Ali Bongo un an plus tôt. Dans son discours, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema a salué la promesse tenue et le déroulement du processus référendaire. Il a estimé que la nouvelle République était le reflet de l'histoire du pays, mais qu'elle devait être aux antipodes de la précédente. Écoutez.
La maturité des différents acteurs, l'unité nationale, la tolérance, le respect de l'autre et la transparence qui ont prévalu tout au long de ce processus prouvent aujourd'hui que le Gabon a fait un saut qualitatif vers une ère nouvelle. Cette loi fondamentale est appelée à être le reflet de notre histoire et la plateforme de nos espérances. Permettre la consolidation d'un état de droit et en promouvant les libertés fondamentales et les droits de l'homme. Assurer une justice équitable et l'égalité de tous devant la loi. Nous savons à travers cette constitution toute l'espérance que la nation fonde sur l'avènement du Gabon nouveau. La 5e République doit se placer aux antipodes de l'ordre ancien par sa gouvernance, avec de nouveaux visages et de nouvelles méthodes.
Extrait du discours du général Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la transition au Gabon. Et puis en Centrafrique, le procès du député d'opposition Dominique Yandoka est repoussé au mardi 24 décembre. Arrêté le 15 décembre 2023, il est accusé de complot contre l'État et devait comparaître ce vendredi dans le cadre de la session criminelle de la cour d'appel de Bangui. Mais suite au décès d'une magistrate dont les obsèques étaient prévues aujourd'hui, l'audience a été reportée. On l'a appris ce matin, 4 fonctionnaires français détenus depuis un an au Burkina Faso ont donc été libérés. Ils étaient accusés d'espionnage. Information diffusée dans la presse marocaine et confirmée par la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE. Le récit de Frédéric Gara.
Confirmation d'abord de la Direction générale du renseignement extérieur, la DGSE, auprès de l'AFP, puis de l'Élysée, selon qui le président français Emmanuel Macron a appelé hier Mohamed VI afin de, je cite, « le remercier chaleureusement de la réussite de sa médiation ». Le rôle de Rabat a également été salué à Ouagadougou. Selon la radio-télévision nationale, la RTB, le chef de la transition, le capitaine Traoré, a été sensible à la médiation du roi du Maroc. L'excellence des relations entre les deux hommes a permis des libération qualifiée d'acte humanitaire. C'est la conclusion d'un feuilleton qui dure depuis le 1er décembre 2023. Ces 4 membres de la DGSE avaient été arrêtés alors qu'ils arrivaient à Ouagadougou pour travailler avec l'ANR, l'Agence nationale du renseignement burkinabé. La direction de la Sûreté de l'État avait estimé que leur visa n'était pas en règle et surtout que leur téléphone portable contenait des documents et des photos jugés sensibles par la Sûreté burkinabé. Accusés d'espionnage, les 4 hommes avaient été incarcérés à la Mako, la maison d'arrêt de Ouagadougou, puis mise au secret dans différentes villas à Ouagadougou, avant donc d'être enfin libérée grâce à l'intervention de Rabat.
Un récit signé Frédéric Gara. Et puis en Guinée, 11 douaniers, dont le directeur général et son adjoint, inculpé pour détournement de fonds et placé sous mandat de dépôt ce jeudi. Moussa Camara, directeur général des douanes, son adjoint Macky Agrébi Diallo et les 9 autres responsables douaniers sont poursuivis pour faux et usage de faux, corruption, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité, selon l'accusation de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Ils avaient été arrêtés puis placés en détention à la prison de Conakry début décembre. On reste en Guinée où la recherche des disparus du stade de Nzérékoré se poursuit. 20 jours après la bousculade meurtrière lors d'un match de foot organisé pour soutenir le maintien au pouvoir du président Mamadi Doumbouya, plusieurs familles cherchent toujours les corps de leurs proches. Les ONG locales estiment qu'une trentaine de corps restent introuvables. Le jour du drame, face à la saturation de l'hôpital, des cadavres avaient été transportés par des hommes en uniforme au camp militaire de la ville, selon des témoins. Mais il n'y a jamais eu de communication des autorités sur le sort réservé à ces dépouilles. Emmanuel Fassou Sagno est le président du collectif régional des ONG de défense des droits humains.
Les familles qui ont pu retirer les corps de leurs enfants ne peuvent plus parler de disparus, parce qu'ils savent qu'ils ont vu le corps de leur frère. Mais la nuit du drame, nous avons appris, et de sources concordantes, que des corps ont été envoyés au camp. Est-ce que les corps qui ont été envoyés au camp ont été remis à leurs parents? C'est là la grande question. Si on a remis à leurs parents, ces parents-là ne pouvaient pas continuer à chercher leur frère, leurs proches. C'est que des corps ont été enlevés, enfuis quelque part, dont nous ne savons pas jusqu'à présent. Il serait important donc que une communication sérieuse soit faite sur le cas des disparus. Et pour nous, cela est très important. Parce que après 19 jours, si on n'a pas encore trouvé son frère, sa sœur, pourtant il était au stade, c'est que quelque part, il est mort, mais le corps a été envoyé quelque part, dont on ignore jusqu'à présent.
Un propos recueilli par Sidi Yansané, rappelant que les ONG avancent un bilan provisoire de 150 morts, trois fois plus que le bilan officiel du gouvernement maintenu à 56 morts depuis le jour de la bousculade.
Afrique Soir sur RFI.
Au Nigeria, le Bureau national des statistiques vient de publier un long rapport sur l'expérience du crime et la perception de la sécurité par la population. Il s'agit d'un sondage réalisé auprès de milliers de foyers sur l'ensemble du territoire entre mai 2023 et avril 2024. Une enquête qui révèle notamment que plus de 600 000 personnes auraient été assassinées au Nigeria durant cette période et que plus de 2 millions d'autres auraient été victimes de kidnapping à travers le pays. Les précisions de Lisa Fabian.
Les données publiées par le Bureau national des statistiques portent sur des crimes allant du vol de volaille au meurtre, en passant par le vol de voiture ou encore les violences sexuelles. Un foisonnement de chiffres particulièrement détaillés, mais dont la fiabilité est sujette à caution. On y apprend notamment que plus de 614 000 Nigérians auraient été assassinés entre mai 2023 et avril 2024. Le nord du Nigeria comptabilise plus de la moitié de ces meurtres. Le nord-est du pays est toujours en proie aux activités des djihadistes, alors que des groupes armés surnommés bandits sont actifs dans la zone nord-ouest. Ces gangs sont notamment spécialisés dans les kidnappings. Selon ce rapport du Bureau des statistiques, ce sont plus de 2 millions de Nigérians qui auraient été enlevés à travers tout le pays sur la période étudiée. Plus de 80% des victimes auraient finalement été libérées, mais environ 12% d'entre elles auraient trouvé la mort aux mains de leurs geôliers. Des chiffres remis en cause par les analystes du cabinet SBM Intelligence à Lagos. Ceux-ci évaluaient le nombre de kidnappings à moins de 8000 entre juillet 2023 et juin 2024, très loin des chiffres avancés par le Bureau des statistiques.
Et pour aller plus loin, je vous propose d'écouter maintenant Marc-Antoine Perrouse de Monclos, directeur de recherche à l'IRD. Il a notamment dirigé le projet Nigeria Watch à l'université d'Ibadan, un observatoire des meurtres, des conflits et de la sécurité dans le pays. Au micro de Nemo Ampis, il émet des réserves sur la méthodologie et la fiabilité des données fournies par le Bureau national des statistiques dans cette enquête.
Les résultats assez effarants, hein, plus de 2 millions de kidnappings au Nigeria, posent effectivement des questions de méthodologie parce qu'il n'y a pas eu de recensement dans ce pays depuis 2006. Et donc, c'est très difficile au bout d'une génération, hein, il y a près de 20 ans, de construire un échantillon représentatif. Maintenant, la vraie question, ce n'est pas l'exhaustivité, c'est effectivement d'avoir une cartographie des violences et surtout de pouvoir dégager des tendances à la hausse ou à la baisse pour voir si le phénomène empire ou pas. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a eu d'autres enquêtes de victimisation auparavant, qui ne donnaient pas du tout les mêmes résultats, notamment pour ce qui est du degré de satisfaction dans la réponse des forces de l'ordre aux homicides ou aux kidnappings, qui là est relativement bon, entre 30 et plus de 50% suivant les cas, alors que dans les autres enquêtes de victimisation, on était plutôt autour de 2%, vous voyez, comme satisfaction vis-à-vis des forces de l'ordre. Donc ça pose beaucoup de questions, en sachant que le Nigeria, de toute façon, d'une manière générale, hein, c'est quand même un cimetière de statistiques. Hein. Donc on a un vrai problème qui ne touche d'ailleurs pas que la mesure de la violence, mais aussi tout, hein, le taux de chômage, le revenu par habitant, etc. On est vraiment dans un flou qui malheureusement n'est guère artistique.
Pourquoi est-il si important pour un pays, ici on parle du Nigeria, de collecter des données sur l'insécurité, sur le crime ?
Ça permet par exemple d'élaborer des politiques publiques. Nous, on s'aperçoit que les accidents de la route sont extrêmement meurtriers, beaucoup plus que les attaques terroristes. Donc si vous vous accordez la valeur à la vie humaine, vous devez investir plus d'argent sur la sécurité routière que dans la lutte contre le terrorisme. Ça permet aussi de dessiner des cartographies de la violence qui devraient effectivement amener l'État à, disons, privilégier, renforcer la sécurité sur certaines zones plutôt que d'autres. Mais malheureusement, au Nigeria, les statistiques ne jouent pas ce rôle-là, elles sont peu utilisées pour élaborer des politiques publiques de développement. En revanche, on débat beaucoup des chiffres de la production pétrolière et surtout de la répartition de la manne, de la rente pétrolière, avec des quotas extrêmement complexes au niveau fédéral. Mais on n'utilise pas les statistiques pour construire des politiques publiques de développement ou des politiques de sécurité qui effectivement viseraient à préserver les vies humaines.
Voilà l'analyse de Marc-Antoine Perros-Demanclos, directeur de recherche à l'IRD, au micro de Nemo Ampis. Et puis au Nigeria, toujours au moins 35 enfants ont été tués et 6 autres blessés dans une bousculade lors d'une fête foraine organisée dans les locaux d'une école du Sud-Ouest. C'est ce qu'indique un communiqué de la police jeudi. La bousculade s'est produite hier au lycée islamique de Bassorun. 8 personnes dans le principal sponsor de la fête foraine organisée par la fondation Wings et la radio locale Agi Digbo FM ont depuis été arrêtés et une enquête a été ouverte à la section des homicides du département des enquêtes criminelles de l'État d'Oyo, selon le porte-parole de la police de cet État du Nigeria. Il est 23h et bientôt 47 minutes à Abuja.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Kouadio.
Un petit rappel de l'actualité dans le reste du monde et on commence par les États-Unis où Donald Trump apporte son soutien à un nouveau texte budgétaire proposé par les Républicains au Congrès. Texte visant à éviter la paralysie de l'État fédéral américain juste avant Noël. Et puis toujours aux États-Unis, le secrétaire d'État Anthony Blinken a dit ce jeudi espérer que le futur président, justement républicain, Donald Trump, poursuivra les efforts de l'administration démocrate pour normaliser la relation entre l'Arabie saoudite et Israël. Les rebelles houthis du Yémen ont eux revendiqué ce jeudi le tir de 2 missiles et d'un drone sur Israël. Après des raids israéliens contre des ports et l'infrastructure énergétique yéménite, bilan 9 morts selon leur chef. Enfin en France, François Bayrou, le nouveau Premier ministre, promet de présenter son gouvernement avant Noël et appelle les partis à y entrer à l'exception du Rassemblement national et de la France insoumise. Retour à l'actualité africaine et direction le Soudan où les bombardements se sont intensifiés ces dernières semaines sur la ville d'El Fasher, capitale du Darfour Nord, avec une augmentation du nombre de victimes civiles. Hier encore, le principal hôpital de la ville a été bombardé par les forces de soutien rapide. Les paramilitaires du général Hemeti qui assiège El Fasher depuis maintenant 8 mois pour tenter d'en prendre le contrôle des mains de l'armée du général Al-Burhan, son rival. Le récit d'Alexandra Branjon.
La journée d'hier a été particulièrement meurtrière à El Fasher. Selon le syndicat des médecins soudanais, 18 civils sont décédés et plus d'une vingtaine gravement blessés dans le bombardement du principal hôpital de la ville. L'hôpital saoudien, initialement une maternité, qui se trouve à l'ouest du centre-ville, à proximité de l'aéroport. Selon un journaliste local, c'est la 7e fois que cet établissement est touché par des obus depuis le mois de mai, début de l'offensive des paramilitaires sur la ville. Depuis, les tirs et les combats avec l'armée sont quotidiens. Vendredi dernier, des bombardements ont entièrement détruit le service des urgences de l'hôpital ainsi que la pharmacie et le bloc opératoire. Une situation dénoncée par l'organisation humanitaire Médecins sans frontières qui soutient cet établissement et appelle les deux parties à un cessez-le-feu. L'armée et les FSR se battent pour le contrôle de cette dernière grande ville du Darfour et sont régulièrement accusés de cibler sans discrimination les civils et les installations médicales.
Ici signé Alexandra Branjon. Un cauchemar sans fin, c'est le sentiment des habitants du nord du Mozambique, frappés comme l'archipel français de Mayotte et le Malawi le week-end dernier par le cyclone Chido. Le dernier bilan de l'Institut national de gestion des risques et des catastrophes naturelles mozambicain fait état d'au moins 73 morts et de 600 blessés. Bilan nettement sous-estimé selon les organisations humanitaires. Et selon les autorités de Maputo, Amélie Tulé, plus de 180 000 personnes sont sinistrées.
Une évaluation encore à affiner sur le terrain. Quatre jours après le passage du cyclone Chido, le président mozambicain Filipe Nyusi a annoncé l'envoi d'équipes de secours dans le nord du pays, à Nampula, Niassa et Cabo Delgado, les trois provinces les plus affectées. Elia Seda est chef de projet pour l'ONG Elpo. Elle est à Mekoufi, un district de la province du Cabo Delgado. Sur place, tout est à terre.
À Mekoufi, on manque de tout, même si l'aide alimentaire commence à arriver. Les habitants sont à bout, ils se sentent abandonnés à leur sort. On vit des catastrophes naturelles, des crises politiques et l'insécurité avec le terrorisme. Tout cela impacte la vie des Mozambicains.
Selon le Programme alimentaire mondial, le district de Mekoufi est dévasté. Plus de 67 000 personnes y ont besoin d'une aide d'urgence. Dans une province, le Cabo Delgado, déjà endeuillée depuis au moins 7 ans par un conflit entre forces gouvernementales et insurgés islamistes. Une violence qui a causé le déplacement de plus d'un million de personnes. Le nord du Mozambique a aussi déjà été touché en 2019 par le cyclone Kenneth. Chido frappe donc une zone déjà très vulnérable, fragilisée par une succession de crises. Et selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, même si la réponse a commencé, le niveau d'équipement est trop faible. 4 millions de dollars du Fonds d'intervention d'urgence de l'ONU viennent d'être alloués au Mozambique.
Une précision d'Amélie Tulé. Puis je rappelle qu'à Mayotte, le président français Emmanuel Macron, qui était sur place ce jeudi, a reconnu qu'il était vraisemblable qu'il y ait beaucoup plus de victimes que les 31 morts et plus de 2000 blessés officiellement recensés. Une large partie de ce département français est toujours privée d'eau, d'électricité et de réseau téléphonique. Et cela 5 jours après le passage du cyclone le plus violent qu'il est connu depuis 90 ans. Les distributions d'eau et de nourriture pour faire face aux pénuries vont atteindre toutes les communes du territoire d'ici dimanche soir, notamment grâce à des largages par hélicoptère, a promis le président français. La plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, le GIEC de la biodiversité autrement dit, a publié ce mardi l'un de ses deux rapports. Le document fait état d'un déclin de la biodiversité à tous les niveaux, tant au plan mondial que local, et cela dans toutes les régions. Ce rapport Nexus souligne surtout que les crises de la biodiversité, de l'eau, de l'alimentation et de la santé sont toutes interconnectées, d'où l'importance de tenter de relever ces défis, non pas séparément, mais ensemble. Le rapport formule aussi quelques 70 pistes de solutions. Certaines sont déjà mises en place. L'une des autrices de ce rapport donne des exemples au Sénégal. Les précisions de Pauline Glaise.
La restauration des mangroves au Sénégal, voilà un exemple cité dans le rapport. Une mesure qui ne permet pas seulement de stocker du carbone. Jeanne Mangalagiou, co-autrice.
On améliore l'alimentation locale parce qu'il y a des questions sur la pêche qui est plus durable. Mais aussi tout ce qui est prévention de l'érosion des zones côtières. Et aussi sur la fertilité des sols en milieu humide.
En protégeant des inondations, les mangroves sont aussi un outil contre le paludisme. L'une de ces opérations de restauration a été menée près de Saint-Louis, même si au départ, l'ouverture d'une brèche entre le fleuve et la mer a offert un contre-exemple, celui d'une mesure pour régler un problème, éviter les inondations et qui a eu des effets inattendus.
Ça a perturbé les domaines de pêche, au niveau très local pour les communautés de Saint-Louis, mais également les courants marins ont complètement changé et les bancs de poissons ont complètement changé.
Face à l'accélération de l'érosion, des mesures ont été prises.
La brèche, ça ne suffisait pas à avoir uniquement une approche par les mangroves, mais c'est intéressant. Ensuite de là, on est parti et donc dans des zones côtières, on a répliqué un certain nombre d'approches sur les mangroves.
Les mesures traitant l'ensemble des défis environnementaux peuvent être plus efficaces au niveau économique, mais cela demande plus de coordination.
Précision signée, Pauline Glaise. Et on en vient au deuxième deuxième épisode de notre série sur la maladie Mpox, toujours dans la province du Sud Kivu, foyer de l'épidémie en République démocratique du Congo. À Uvira, au sein de l'hôpital général, l'ONG Médecins Sans Frontières et le ministère de la Santé ont installé un centre de traitement pour les personnes atteintes. Seuls les cas les plus graves sont pris en charge, faute de capacité disponible. Reportage, Coralie Pierret.
Bienvenue, on va aller dans notre structure. Moi je m'appelle Erna, je travaille pour MSF et nous sommes ici en collaboration avec le ministère de Santé. Je vous donne un cache-nez.
Oui.
Avant d'entrer au centre de traitement Mpox d'Uvira, masque et lavage de mains obligatoires.
Comme vous voyez, hein, il est tôt le matin mais il y a déjà plein de malades. Donc pour éviter que tout le monde soit tout ensemble, très proche entre eux, on essaie d'avoir un peu un flux des patients.
Parce que la maladie se transmet par rapport sexuel ou par contact rapproché, et c'est l'un des enjeux pour combattre la contamination.
On peut vous donner beaucoup de savon pour vous soigner à la maison, mais à la fin, si vous n'avez pas de l'eau, on peut vous donner le conseil de ne pas partager le matelas. Mais s'il y a un matelas pour 6 personnes, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est difficile, en fait. Mais nous voyons environ 100 jusqu'à 120 personnes par semaine en ce moment. On fait le choix de vraiment admettre les cas les plus graves.
Parmi ces cas graves, Grace, qui avait développé des complications avant son arrivée au centre. Dès les premières éruptions cutanées, elle s'était pourtant tournée vers plusieurs professionnels de santé qui l'ont abandonnée, dit-elle.
Je me suis aperçue que j'avais des boutons autour de mes organes génitaux et quand j'ai consulté, les pharmaciens se sont exclamés « Ah, mais c'est le Mpox !» et ils m'ont dit que c'était très contagieux. Je me suis sentie vraiment comme si je n'avais aucune valeur.
La maladie n'est pas encore acceptée par tous et certains continuent d'avoir peur, explique le docteur Panzou Nimi, médecin-chef de zone de santé d'Uvira.
Notre courbe d'évolution des cas est vraiment atypique. Parce qu'on avait déjà atteint les pics, mais curieusement, on n'a pas encore amorcé la descente. On est presque en plateau. Donc les cas se cachent. Les gens ont encore peur de se dénoncer et nous devons renforcer cette surveillance.
D'autant qu'Uvira est une ville carrefour dont la localisation renforce son exposition à la contagion. Elle est située au bord du lac Tanganyika qui relie 4 pays entre eux. La RDC, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Coralie Pierret, de retour de Uvira, RFI.
RFI à Uvira, où il est actuellement minuit et bientôt 57 minutes. Et place au dossier Afrique économie consacré aujourd'hui au prix des matériaux de construction au Tchad. C'est notamment le cas du ciment, qu'il soit produit localement ou importé. Un sac de ciment de 50 kilos se vend entre 8500 et 11500 francs CFA, soit 130 à 176 euros. Un coût trop élevé pour la population locale. Reportage à N'Djamena, Olivier Monodji.
À Sabangali, dans le 3e arrondissement, Shérif a arrêté son chantier de construction pour cause la cherté des matériaux de construction en général et le ciment en particulier.
J'ai commencé depuis 2020. Le sac qui varie ici dans notre quartier entre 9 000 à 12 000 francs, le sac de 50 kg par exemple. Donc on essaie à quel point se vouer.
Sur les réseaux sociaux ces derniers temps, les consommateurs ne cessent de critiquer le gouvernement tchadien. Ils demandent une réduction sur le prix du sac de ciment de 50 kg pour qu'il passe à 3 500 francs CFA. Brahim Dadi, fonctionnaire tchadien, en fait partie.
Ma demande a été donc plus insistante pour aider toute la population tchadienne à construire en dur. Aujourd'hui, le sac de ciment vendu à 8 500 francs à N'Djamena est vendu entre 15 000 et 22 000 francs en province.
L'arrivée en 2011 dans le Mayo-Kébi Ouest de l'usine de la Société Nationale de Ciment de Baouri devait normalement répondre à ces préoccupations, car elle était censée ravitailler 700 tonnes par jour, soit 200 000 tonnes par an. Malheureusement, cette usine est presque mourante. Elle n'arrive pas à produire le ciment made in Tchad à cause de la crise économique depuis 2016, nous explique Kondai Benoît, le directeur adjoint de l'usine. l'usine.
L'usine fonctionnait à perte puisqu'elle avait cassé le prix de vente du ciment. De 5 250, on est arrivé à 4 850 pour le PC32.5. Et le PC42.5, au lieu de 6 250, on a réduit à 5 850 francs de ça. Pour le moment, on n'a pas de stock de ciment dans notre silo parce qu'on est en crise.
Les commerçants sont conscients de pratiquer les prix trop élevés. Cependant, ils pointent du doigt les tracasseries routières et les transports. C'est ce que Martel Mohamed, vendeur dans le quartier à Bénin.
Si nous achetons cher et nous vendons moins cher, ça ne nous aide pas. Quand le grossiste nous amène le sac à 8 300, ils ont déjà aussi mis dedans les transports.
De nombreux Tchadiens demandent aux autorités d'exonérer des taxes la production de ciment et de subventionner les produits liés au processus de production. Cela permettrait, selon eux, de proposer des coûts acceptables comme au Cameroun voisin, où un sac de ciment de 50 kg s'achète entre 3 500 francs à 5 000 francs CFA, ou au Nigeria qui le commercialise entre 2 500 francs à 3 000 francs CFA. Olivier Monodi, Ndjamena, RFI.
Et c'est donc au Tchad que s'achève cette édition d'Afrique Soir réalisée par Jonathan Brédy, rédacteur en chef Esdras Nickman, assisté de Raphaël Pluxva. Merci de rester à l'écoute de notre antenne. Dans 10 secondes, un nouveau journal.